grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse en direct ou en podcast. Comment expliquer le succès du vintage? Comment expliquer ce goût pour les objets, le style, la mode des années 50 à 80? Miroir soleil, vinyle, table basse à pied compas, fauteuil scandinave, cafetière en émail, berceau en rotin, papier peint floraux. Dans nos sociétés plus que jamais liquides, violentes et anxiogènes, certains cultivent une joyeuse nostalgie pour tout ce qui est vintage. Que raconte ce goût du rétro? Comment expliquer cette tendance? Est-ce un phénomène de mode ou une lame de fond durable? Pourquoi est-on devenu aussi nostalgique? Est-il réactionnaire de regarder dans le rétro ou est-ce au contraire un signe de modernité? Nous nous intéresserons également au rétro-marketing, cette façon de faire du neuf avec du vieux, et nous verrons que le vintage est également une philosophie de vie soucieuse de l'environnement et du porte-monnaie. Pour nous éclairer ce matin, les journalistes Nathalie Dolivo et Catel Pouliquen et le sociologue Ronan Châtelier. Et vous comprenez-vous le succès du vintage? Aimez-vous chiner en brocante ces objets et vêtements du passé? Est-ce pour vous un moyen de faire des économies, de préserver l'environnement, de lutter contre l'obsolescence programmée? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Aline.
Terriblement vintage. Vous nous proposez ce matin une petite philosophie du vintage.
Oui, avec une question, parce que le vintage nous conduit à repenser notre rapport au temps et peut-être à le revisiter sous la forme de la durée.
Avec une élégance très Mad Men, je trouve.
Mais oui, absolument, c'est tout moi.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Avec nous ce matin pour nous éclairer sur le phénomène du vintage, deux journalistes à elle, bonjour. Nathalie Dolivo.
Bonjour.
Catel Pouliquen, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez chez Flammarion Rétro Cool, comment le vintage peut sauver le monde. Bonjour Ronan Châtelier.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et président du cabinet Tendanceau. Qu'est-ce que le vintage? Tiens, Nathalie Dolivo, Catel Pouliquen. Au départ, le vintage, c'est un porto ou un champagne millésimé d'au moins 10 ans d'âge. Et en anglais, vintage signifie ancien d'époque. Nathalie
c'est ça,
Dolivo.
C'est un terme qui vient du milieu du vin, mais qui, depuis longtemps maintenant, est très associé à la mode et voilà, l'esthétique. Pour qu'un vêtement soit réellement vintage, pour les puristes, il faut qu'il ait au moins 20 ans d'âge, mais ce qui se passe en ce moment, c'est que la définition s'élargit et que désormais peut être vintage quelque chose qui a quelques saisons, puisqu'on parle de saison en mode, par exemple. Donc voilà, le sens s'élargit et tout ce qui est de seconde main, aujourd'hui, en tout cas pour les très jeunes, peut être considéré comme vintage. Donc ça fait beaucoup de choses.
Catel Pouliquen.
On peut aussi ajouter que la mode surfe sur l'esthétique vintage, pas que la mode, d'ailleurs le design, la déco, etc. Et c'est devenu finalement une esthétique assez dominante par les temps qui courent. Et vous en parliez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un marketing aussi du vintage, donc c'est pas le cœur de notre sujet, mais on est forcé de le constater quand même.
Ronan Châtelier, comment naît une tendance? Pourquoi tout d'un coup, tout le monde a voulu acheter des fauteuils scandinaves des années 50-60 ou des tables basses pieds compas? Comment ça naît une tendance?
Alors, par rapport à ce qu'on pourrait appeler un petit phénomène de mode classique ou ce qu'on appelle aussi des phénomènes minuscules contemporains, une tendance, c'est quelque chose qui doit être lisible sociologiquement, stable dans le temps et surtout instauratif d'un sens. Okay, donc ça veut dire que lisible sociologiquement, il faut qu'il y ait une catégorie de la population. Alors là, par exemple, ce qui ça donne au vintage le plus, ce sont les gens de plus de 35 ans, vous.
Merci.
Après, stable dans le temps, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit très justement, il faut qu'il y ait eu, qu'il soit passé quelque chose avant, quoi. Donc le rock, le punk, tout ça, c'est recyclé. Voilà. Et d'ailleurs, les jeunes aujourd'hui ont l'impression d'inventer leur mode punk chic ou ce genre de choses. En fait, ils n'inventent pas complètement. Enfin, ils ont, ils brassent quelque chose, si vous voulez. Mais ils ont un désir de réinvention générale. Rationnel tout de même. Donc on ne sait plus très bien si c'est du vintage ou si c'est quelque chose de plus moderne. Bon, toujours est-il que la vraie tendance qui est votre question, ça doit être ce qu'on appelle un archétype, hein, quelque chose de culturel assez solide, un fragment de culture, de la culture qui est actualisée par des formes et des ressentis contemporains. C'est ça une tendance. Et c'est la vraie différence avec finalement les petits phénomènes de mode auxquels on assiste tous les jours. Le rose, le mauve qui est un nouveau noir, enfin ce genre de trucs.
Nathalie Dolivo.
Non, moi je voudrais dire que justement notre enquête nous a montré que que cette tendance, elle concernait justement beaucoup les jeunes, et ça nous a surpris d'ailleurs, puisqu'ils sont des grands consommateurs de fripes, de seconde main, et que justement, c'est pas un phénomène qui concerne des vieux réacs ou des nostalgiques, un peu, passéiste. Au contraire, la jeunesse porte aussi ce désir-là. Donc ça nous a intéressés.
Qu'a-t-elle publiqué ?
Oui, ce qui forge aussi la tendance, je pense, c'est qu'elle est nourrie par plusieurs facteurs. C'est-à-dire que pour certains, consommer vintage, c'est finalement un besoin économique. Pour d'autres, c'est un souci écologique qui les mène à cela. Et pour d'autres, enfin, c'est plutôt une préoccupation philosophique, c'est-à-dire la volonté aussi de se distinguer, la volonté d'écrire finalement sa propre histoire et puis de réenchanter aussi notre rapport aux objets finalement a pu être un petit peu fané parfois par un surconsumérisme qui est parfois dénoncé dans ce mouvement. Donc c'est l'ensemble de finalement ces facteurs qui, selon moi, selon nous, contribuent à instaurer une tendance.
Je suis complètement d'accord avec, au fond, dans la société, on assiste à un désir d'authenticité, enfin une obsession pour l'authenticité. Enfin, il y a l'authenticité, c'est quelque chose qui se veut rassurant. Il y a une espèce de convention idéologique aujourd'hui qui est que quelque chose qui est authentique est intègre, présente une forme de vérité, d'efficacité, de crédibilité. On le voit dans l'agroalimentaire autant que dans la mode. Et en fait, tout le monde aujourd'hui travaille ce désir d'authenticité. Le vintage est l'émanation de ça.
Alors, toutes les époques ont recyclé le passé. Sous Napoléon III, le mobilier Louis XVI était très en vogue. Et nous recyclons un passé proche, qu'a-t-elle publié ?
Absolument, nous recyclons un passé proche. Nous le réenchantons parfois. C'est vrai qu'on a questionné aussi, évidemment, la façon dont la mode a toujours regardé en arrière et finalement réhabilité des formes du passé. C'était souvent finalement le cas des artistes, des gens à la marge, des gens qui cherchaient à se distinguer. Et encore une fois, choisir le vintage, c'est un signe de distinction, alors qui n'est pas forcément un snobisme, loin de là, mais en tout cas c'est une volonté de se démarquer, et ça a toujours été le cas en fait.
Et puis les revivals se sont peut-être intensifiés, sont de plus en plus rapides, de plus en plus proches, peut-être parce que l'info va plus vite et qu'il y a une sorte de frénésie, et y compris une grosse pression sur les créateurs de mode par exemple. Ça, c'est un peu technique, mais c'est intéressant quand même de le raconter, et qui fait qu'ils ont besoin de produire énormément et que donc ils ont besoin d'idées, parce que c'est pas facile de trouver 10 idées par an pour faire des collections géniales, et que donc ils se tournent vers le passé. Du coup, la machine se nourrit comme ça aussi.
Et face à des sociétés anxiogènes, sans phare ni balise, violentes, ultra connectées, on se réfugie dans le monde rassurant du vintage, qu'a-t-elle Pouliquen ?
Oui, il y a forcément, en effet, un aspect psychologique aussi, un côté Madeleine extrêmement rassurant. Ce sont des icônes du passé, ce sont des objets liés à notre enfance ou bien à celle de nos grands-parents. Et donc, il y a toute une mythologie, en effet, extrêmement rassurante qu'on a envie de se réapproprier. Et c'est un imaginaire qui est à l'œuvre là aussi, parfois à travers des objets qui sont en quelque sorte refétichisés. On les nourrit d'une histoire réelle ou bien d'une histoire imaginaire. Et c'est vrai que quand on achète aussi une robe ancienne ou un objet, on peut soit connaître sa véritable histoire, soit avoir envie de s'imaginer qu'on a nous-mêmes vécu dans une époque révolue. Et ça fait écho évidemment aussi à un certain passé qui pouvait être un passé qui peut être mythifié parfois, mais aussi un passé qui était vraiment extrêmement glorieux. Je pense aux 30 Glorieuses, c'est le cas de le dire, qui était un temps finalement de plein emploi.
Et oui, on a l'impression que la confiance en l'avenir qui caractérisait la société de consommation d'après-guerre a laissé la place à la peur du futur, Renan Châtelier, d'où ce goût prononcé pour un passé réconfortant.
Oui, alors vous avez parlé tout à l'heure de snobisme. Je crois que c'est pas du snobisme. C'est, je pense que quand vous regardez les gens qui pratiquent le vintage, c'est des gens qui ont probablement une dimension culturelle forte dans leur shopping. C'est des gens qui passent du temps, qui connaissent les références, qui puisent dans l'histoire, dans les stocks historiques, qui mélangent tout ça. Il y a un travail de recherche qui est pas inintéressant. Voilà. Donc ça, c'est le vintage pur. Puis je pense que effectivement, ces gens-là essayent probablement de se démarquer. Alors, je ne sais pas si se démarquer est toujours un snobisme, Thibaut de Saint-Maurice va nous le dire, mais ces gens-là essayent de se démarquer. Voilà. Et ils se démarquent pourquoi ? Parce qu'il y a un très fort mouvement dans la mondialisation, d'uniformisation. Enfin, on a vraiment l'impression que tout le monde porte un peu le même uniforme dès lors que la tendance est sortie, etc. Et donc, il y a des gens comme ça qui sont en résistance, probablement.
Nathalie Dolivo.
Non, je voulais dire qu'effectivement, c'est peut-être une manière de réenchanter un peu la consommation, un enchantement de la conso qu'on a perdu avec la fast fashion, avec la fast post-conso, et que du coup, chercher, chiner son objet vintage, c'est réinvestir l'objet, c'est passer du temps, c'est peut-être faire confiance au hasard, attendre, et puis donc, voilà, retrouver un peu de ces sensations qui étaient peut-être celles de nos parents ou de nos grands-parents quand ils recevaient, je sais pas, leur premier frigidaire ou leur premier Walkman, bon, c'est peut-être un peu... mais il y a un peu, peut-être quelque chose de cet ordre quand même qui se joue.
De l'ordre de la joie aussi, une joie retrouvée au hasard, comme tu le disais, Nathalie, ouais. Et puis au plaisir de la Chine, on nous a beaucoup parlé de ça parmi les gens qu'on a interrogés.
Un petit instant épiphanique, bah oui, on trouve ça, la bonne
la
pièce.
La surprise.
Vous parlez de joie, qu'a-t-elle Poliquin. La nostalgie, c'est une émotion mixte qui allie joie et tristesse. Et dans la nostalgie du vintage, c'est la joie et le plaisir qui dominent.
Exactement, c'est une nostalgie heureuse. Exactement. Absolument, c'est une nostalgie heureuse qui n'est absolument pas passéiste, comme on l'a dit, et surtout pas réactionnaire, mais c'est une manière d'écrire un nouveau progrès, en fait. Regarder en arrière peut être progressiste, peut être une manière de réenchanter l'avenir en choisissant finalement ce qu'on garde du passé, mais en étant en même temps les deux pieds dans la modernité, c'est-à-dire que le vintage tel que les rétro-cools le pratiquent utilise les outils de la modernité, notamment les réseaux sociaux, pour mettre en scène leurs trouvailles, et il n'y a aucune incompatibilité entre le vintage tel que ce mouvement nous est apparu, et les réseaux sociaux, tous les outils actuels.
Et j'aimerais citer une étude publiée en 2018, commanditée par le Centre pour la Recherche Économique et ses applications. Les Français seraient 70% à souhaiter vivre dans une époque révolue plutôt que dans le futur.
Ce chiffre, il est très très frappant. C'est vrai qu'on le cite dans le livre. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui perturbe les gens aujourd'hui, qui leur fait peur, qui les...
On peut les comprendre.
À toute époque, les gens étaient un peu perturbés. À toute époque, le passé était mieux que le futur.
Ouais, mais donc, là, on vit quand même une révolution technologique qui peut-être désarçonne certains. Ils ont envie d'un petit temps de correction, de ralentissement. Enfin, cette problématique du ralentissement, elle est aussi au cœur du vintage.
Si on veut avoir une perspective vraiment historique, je pense qu'à toute époque, on a eu ce stress par rapport au futur et cette envie de rejouer un peu l'époque d'avant.
En fait. Là, c'est une volonté de ralentir aussi. Mmh. C'est un désir de lutter contre la frénésie, de reprendre son temps. Et c'est pas forcément une envie de vivre uniquement dans le passé, mais c'est en tout cas de corriger l'époque actuelle. Telle qu'elle nous apparaît parfois extrêmement imparfaite.
J'ai vu dans Rétro-Cool votre livre qui est vraiment... moi je suis extérieur, lecture franchement sympa, et effectivement la dimension slow émerge. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on veut ralentir. C'est ça le...
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, juste un paradoxe sur les objets vintage, par exemple. Le paradoxe, c'est qu'ils ne sont pas vintage en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au fond, quand ils sont sortis, entre guillemets, dans les années 70, c'était au contraire des objets
de la modernité.
Et donc, moi, ce que je trouve étrange, en tout cas, pour être un peu dans l'interrogation, mais c'est d'où vient le vintage aux objets. C'est-à-dire que c'est des objets, c'est pas une qualité propre des objets, c'est pas comme un objet qui est grand, petit, etc. Donc, est-ce que c'est pas une construction artificielle, pour être un peu... la polémique.
Le fait qu'il soit anachronique, peut-être déjà, qu'il soit à rebours du temps présent, les rend vintage, je ne sais pas, c'est peut-être ce décalage que cherchent les gens.
Allez, dites-nous si vous comprenez ce goût pour le vintage. Êtes-vous nostalgique des objets, vêtements, accessoires, mobilier des années 50 à 80 et pourquoi pas 90? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexa Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Laura Laplot et Nicolas Bove, et c'est réalisé par Stéphanie Texier. Sur la route, sur la route, sur la route, sur la map monde vol d'oiseau, on se dit qu'on peut gagner gros, qu'on a le ciel dans une goutte d'eau, on cherche tous un bon destin, la vie s'écoule entre nos mains. Joie, la peine, notre chemin. Traverser la vie sans billet de train. Traverser la vie sans billet de train. Sur la route, sur la route. Solitude, la mauvaise tête, ça fait rêver la liberté. Jurer qu'on ne s'ennuiera pas. Du bien, tu vois, et ce bonheur qui nous traverse pour un simple morceau de pain. Si tu as faim, prends. Raphaël interprété sur la route.
Tu trouves pas que cette assiette irait bien sur Madame Rose?
Oui, c'est vrai.
Excusez-moi, c'est combien cette assiette?
Grand bien vous fasse.
15 euros l'assiette. Ah, c'est cher.
Bah non, c'est pas cher.
Ah si, c'est cher.
Sur France Inter.
10h23 et ce matin, on s'intéresse au vintage. Comment expliquer ce goût pour les objets, vêtements, accessoires, mobilier des années 50 à 80? Laura Laplot et Nicolas Bob ont rencontré des Parisiens adeptes du vintage.
Ça, c'est une vieille veste que j'ai trouvée dans l'armoire de mon grand-père. Par exemple, là, la fermeture, elle est cassée, etc. Donc c'est un peu embêtant, mais je trouve que c'est ça qui fait un peu le charme.
Des vêtements à fleurs, ou à pois, ou des collants colorés, ou la fourrure aussi.
Ça fait appel à la nostalgie. Par exemple, les tourne-disques. Pour le son, il y a des gens qui adorent ça.
Moi, je trouve que ça devient de plus en plus à la mode.
C'est plutôt ce qui est connoté hippie, baba cool, couleur orange.
Ça m'amuse beaucoup de voir que ça revient à la mode. Moi, j'ai 74 ans, et donc quand j'avais 20 ans, eh bien, c'était ça.
Je trouve ça plus attirant parce que c'est quelque chose qui a une histoire, qui est raconté un peu par la façon dont c'est abîmé, etc.
La mode, c'est ça, c'est un perpétuel recommencement.
Propos recueillis dans les rues de Paris cette semaine. Nathalie Dolivo, Catel Pouliquen, vous publiez Rétro Cool, comment le vintage peut sauver le monde. Bah tiens, pourquoi le vintage peut-il d'ailleurs sauver le monde, Catel Pouliquen?
Ah, parce que c'est sans doute une manière de limiter notre empreinte écologique. C'est vrai que consommer des vêtements qui ont déjà été produits, qui ont déjà été portés, c'est en effet limiter son empreinte et donc se sentir finalement un meilleur citoyen sans morale aucune. Mais enfin, c'est évident que la mode est une industrie extrêmement polluante. C'est la deuxième industrie la plus polluante après la pétrochimie, et c'est une grande consommatrice d'eau aussi. Greenpeace par exemple considère qu'il faut entre 7000 et 10 000 litres d'eau pour fabriquer un seul jean, sachant qu'il s'en produit plus de 2 millions par an. Ça laisse évidemment songeur.
Tiens, bonjour Elsa.
Bonjour.
Vous appelez de Haute-Savoie, mais vous, c'est l'écologie qui vous pousse à consommer vintage justement?
Oui, plus que le côté fashion, surtout c'est une vraie question écologique, je pense, et politique, sur tout ce qui est sur consommation, fabrication à l'autre bout du monde, les transports, tout ça. En fait, localement, il y a tellement d'associations qui existent, et maintenant avec les vide-greniers qui fleurissent partout, on peut trouver même les objets du quotidien, des vêtements pour les enfants par exemple. Enfin, c'est hallucinant, les bébés ils mettent des vêtements pendant un mois et on peut acheter n'importe quel vêtement en magasin qui coûte 20 euros, alors que moi je les trouve à 30 centimes sur les vide-greniers et ils sont en parfait état. Enfin, pour moi, en plus c'est économique, donc il n'y a que du positif. On devrait tous faire ça.
Pour vous, c'est une manière de tourner le dos au tout jetable?
Ah, mais complètement, parce que en plus on est un peu dans une démarche zéro déchet, on fait attention un petit peu à ce qu'on consomme localement, bio, le plastique, etc. Et donc forcément, c'est En fait, on donne une deuxième vie à tellement d'objets. Et puis moi, une fois que je les ai utilisés et que j'en ai plus besoin, je vais les redonner à l'association à qui je les ai achetés pour très peu cher. Mais du coup, je leur redonne. Ils auront à nouveau une nouvelle vie. Je trouve ça super. En fait, c'est cyclique. Et tout le monde y trouve son compte.
Consommation vertueuse et vintage d'Elsa, Nathalie Doliveau.
Ah oui, non, c'est très inspirant. Je pense qu'aujourd'hui, justement, il y a, par exemple, à Paris, une grande free truck party qui est organisée, où les gens viennent apporter les choses dont ils veulent plus et en prendre d'autres. Bah voilà, c'est tout à fait dans l'air du temps. Et c'est peut-être pour cette raison-là, donc, que ça va sauver le monde et que ça va dépasser le stade de la tendance qui va se périmer en quelques mois. Je pense que ça rencontre les enjeux cruciaux écologiques de l'époque. Donc ça va peut-être devenir un véritable mode de vie.
Merci Elsa de nous avoir appelé. Et puis Abel nous dit par courriel, les objets vintage sont souvent plus solides qu'à tel point qu'un.
Eh oui, c'est vrai que ce sont souvent des objets qui ont été extrêmement bien produits, bien manufacturés et à rebours d'une production qui souvent finalement laisse à désirer aujourd'hui quand en effet elle est faite dans des conditions difficiles à retracer. C'est vrai que finalement consommer vintage, c'est aussi participer à la lutte contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que le fait que les objets parfois arrivent sur le marché en étant déjà presque périmés. Certains industriels les conçoivent comme les font naître vieux en quelque sorte, hein, et finalement acheter vintage et ou bien réparer ces objets, puisque certains apprécient beaucoup de réparer leurs propres objets, c'est une manière aussi de lutter contre ce fléau.
Ronan Châtelier, je rappelle que vous êtes sociologue.
Ouais, donc le projet de vintage est beaucoup plus vaste effectivement que la mode. Je pense qu'on peut même parler de décroissance. C'était ça aussi, c'était un concept à la mode autant que le vintage. Et effectivement, je crois qu'on en est tous là aujourd'hui à réfléchir à la réparabilité, au jetable, à ces déchets, à cette pollution, etc. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que, enfin, moi je souscris à ce bel idéalisme qui est que le vintage va probablement sauver le monde, qui est le sous-titre marrant du
peut sauver
du livre,
le monde,
peut sauver
non.
Le monde.
Il ne tient qu'à nous,
mais
d'être
je pense aussi
nombreux.
Qu'il y a derrière tout ça aussi une certaine forme de marchandisation, comme partout, qui s'est instaurée sur le vintage. Il y a une forme de paupérisation aussi des déchets. Peut-être qu'il y a une paupérisation du vintage, peut-être qu'à force de fouiller, etc., il y a des gens mal intentionnés qui vont nous vendre plus cher des objets vintage que finalement ils le mériteraient, quoi.
Non, mais je voulais dire aussi que ça concerne tout le monde. On voit ça dans toute la France, dans tous les milieux, dans toutes les catégories sociales, tous les âges, en province, partout. Enfin, c'est...
Alors, il faut rappeler une chose, hein, quand on parle du vintage, il s'agit évidemment d'un passé revisité, fantasmé, entièrement reconstruit. Le vintage, c'est plutôt bien vu, hein, c'est perçu comme quelque chose qui n'est pas forcément rétrograde, réactionnaire. C'est quoi la frontière? Parce que par exemple, quand on écoute un polémiste d'extrême droite, Éric Zemmour, qui défend une France des années 50-60, c'est pas vraiment rétro-cool. Elle est où la frontière, Katell Poulikin?
La frontière, je pense qu'elle est dans le projet sous-tendu par le vintage, c'est-à-dire que c'est l'idée de construire finalement une société qui soit plus équitable. C'est vrai que on a entendu le témoignage d'Elsa. C'est aussi avoir conscience finalement que certains travailleurs peuvent être vraiment exploités, mal payés à l'autre bout du monde pour fournir des robinets à vêtements, à fringues pour nous occidentaux. Ce n'est pas caricatural que dire cela, c'est une réalité économique, c'est une réalité industrielle. Donc finalement, avoir conscience de cela, je pense que consommer en pensant à cela, c'est construire encore une fois une société plus équitable, plus progressiste et certainement pas réactionnaire, comme on le disait aussi tout à l'heure. C'est finalement, ce n'est pas renier le monde contemporain, c'est plutôt dessiner un progrès plus conscient, plus responsable, mais qui regarde vraiment le monde sans vouloir revenir en arrière, absolument.
Mais là où le projet vintage a peut-être sa chance, justement, c'est que je trouve que ça, c'est quelque chose de moins radical, par exemple, que la décroissance. C'est-à-dire qu'on conserve la joie du shopping, par exemple, qui est un truc qui peut plaire à un certain nombre de gens.
Dans la décroissance, il n'y a plus de joie du shopping du tout.
Non, mais c'est quand même important de dire que on fait avec ce qui est déjà existant, et du coup, ça permet de continuer à poursuivre un mode de vie qui peut être agréable aussi. Enfin, il y a de la joie à s'habiller, à décorer son intérieur.
Ce qui est intéressant, c'est aussi la question philosophique que pose le vintage. Allez, soyons fous. Il y a une espèce de relation à la vérité et à l'artifice. C'est-à-dire que la mode, traditionnellement, nous impose l'artificialité, la superficialité, la frivolité. Et en fait, je pense qu'avec le vintage, on va au cœur des choses, à l'authentique, à l'histoire, à l'efficacité, à l'utilité, à la crédibilité. C'est peut-être ça, la relation à la vérité, pour une fois.
Alors, quelle est la subtile frontière entre le vintage et le démodé? Est-ce que, par exemple, le mobilier faussement rustique des années 80 deviendra un jour vintage? J'en suis pas totalement persuadé. Mais c'est quoi la limite entre le démodé et le vintage?
Le démodé peut être tout à fait vintage et peut être considéré comme très beau et très à la mode par d'autres. C'est éminemment subjectif. Et c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de loi absolue sur l'esthétique, heureusement d'ailleurs.
Et vous pensez que le faux rustique des années 80 reviendra?
Peut-être, il est possible.
Thibaut Saint-Maurice, vous êtes dubitatif.
Non, au contraire, non, je pense que absolument tout est possible, parce que pour le coup, moi je serais moins enthousiaste sur le côté on revient à l'authenticité, on revient à la vérité, parce que j'ai l'impression surtout que ce qu'on retrouve, ce sont les signes de l'authenticité, et que toute consommation est une consommation de signes, d'histoire. On l'a entendu dans les témoignages, c'est ce qui fait leur charme, c'est ce qui fait qu'ils ont une histoire. On se raconte des histoires. Et donc, un jour, on va raconter une histoire sur les années 80, sur les vestes à épaulettes.
Ça commence déjà.
Voilà. Les vestes à épaulettes, il y a déjà le jean taille haute qui a remonté, tout ça.
Bah, vous qui êtes prof dans un lycée, vous le voyez réapparaître peut-être
Ce
goût pour les années 80.
Oui, je vois beaucoup de jeunes dans les vêtements,
de 20-25 ans qui portent des vêtements que je portais déjà dans les années 80.
Et ce qui est étonnant, c'est que pour le coup, ils font référence à une époque qu'ils n'ont pas connu, et parce que effectivement aujourd'hui avoir 18-20 ans, c'est être né dans les années 2000, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est pour ça que c'est ils consomment du signe, du fantasme et de l'histoire, parce que s'ils revenaient juste à quelque chose de leur enfance, on pourrait être peut-être dans quelque chose qui relève d'une forme d'authenticité, du déjà vécu. Là, ils sont dans une forme de fantasme.
Non, mais il y a peut-être un besoin chez les jeunes générations de passer justement du fait que on vit dans un monde où on nous explique qu'il faut toujours recommencer tout à zéro, être disruptif, inventer des choses neuves tous les jours. Et peut-être qu'il y a aussi, oui, ce désir de se tourner un peu en arrière pour voir comment les choses se faisaient.
Bonjour Adeline.
Bonjour.
Bienvenue, vous habitez Bordeaux. Alors vous êtes une grande passionnée du vintage et ça fait 20 ans que ça dure, c'est ça ?
C'est ça, ça a commencé à mon adolescence en fait, c'était lié à mes grands-mères, je portais les robes de mes grands-mères, l'une d'elles était couturière donc me les reprenait pour qu'elles soient à ma taille et ça a débuté là, donc j'avais 15-16 ans et depuis ça ne s'est jamais arrêté, donc ça fait 20 ans.
Alors je vous rassure Adeline, moi je portais les gilets de mon grand-père, j'aimais bien les porter, c'était à la mode à l'époque dans les années 80. Alors vous passez beaucoup de temps dans les brocantes, les vides-greniers, les boutiques solidaires type Emmaüs.
Voilà, exactement. Donc j'ai des spots, comme on dit. J'ai la chance de vivre dans une région où il y a énormément de propositions, à Bordeaux même, mais aussi aux alentours. Et puis j'allie cette quête du vintage aussi avec les outils modernes, puisque je chine aussi énormément sur Internet. Voilà, donc j'allie les deux. Et moi, j'écoute l'émission depuis le début. Et j'acquiesce à tout ce qui est dit et ce qui me motive moi essentiellement c'est me raconter l'histoire de ces vêtements. Alors évidemment ça n'est que ma rêverie personnelle, mais voilà, ce vêtement là qu'est-ce qu'il a vécu, j'essaie de réinventer l'histoire de la personne qui l'a porté. Et l'anecdote que je confie à votre journaliste hier quand on s'est contacté, c'était j'adore les gilets vintage, que ça, à partir des années 50, les gilets et les robes des années 50 à 70, et quand il y a le nom de la personne brodée à l'intérieur, par exemple, récemment j'ai chiné un gilet avec le nom d'une dame et l'EHPAD dans lequel était cette dame, et je conserve ces petites étiquettes dans le vêtement et je me dis que je poursuis d'une certaine manière la vie de ce vêtement, mais peut-être aussi à travers moi ce la vie de cette dame qui n'est plus sans doute, mais voilà, il y a une continuité, il y a une... Voilà, moi je suis dans cette rêverie-là et dans cette quête de la trouvaille aussi, qui est très excitante. Et quand on trouve la pièce coupée une de vos intervenantes a parlé de qualité, effectivement, des pièces extrêmement bien conçues, coupées, doublées, des manteaux magnifiques, dans des matières absolument merveilleuses, et bien moi, ça m'enchante.
C'est très beau ce que dit Aline. Hein.
Oui, bonjour voilà. Aline, c'est très beau effectivement votre témoignage, et on voit la puissance de l'imaginaire qui est à l'œuvre sur ces objets que vous choisissez et que vous trouvez parfois presque par miracle. C'est vraiment très beau de vous entendre, et ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on a voulu montrer dans notre livre.
Ouais, je crois qu'il y a une présence poétique, c'est ce qu'on ressentait quand on écoutait la poésie des objets qui fait réapparaître d'autres vies antérieures.
C'est assez, d'autres vies que
cette longue chaîne de personnes qui auraient porté l'objet.
Merci beaucoup Aline pour votre joli témoignage.
Thibaut de Saint-Maurice. Merci à vous, bonne journée.
Merci. Thibaut de Saint-Maurice, alors ça vous inspire quelle réflexion philosophique, ce succès du vintage?
Je me dis simplement que ce goût pour le vintage, commençons par le début, ça indique un goût pour le passé, on l'a dit, un goût pour un temps qui n'est plus et que l'on peut juste retrouver à travers donc une vieille veste ou la réédition d'un fauteuil typique des années 70. Un peu donc comme si nous étions tous devenus des Marcel Proust du quotidien à la recherche du temps perdu. Un peu aussi comme si tous ces objets vintage nous permettaient d'exprimer une nostalgie. Alors sauf que il y a un paradoxe de la nostalgie. La nostalgie, c'est au sens strict la douleur que l'on ressent en se remémorant le passé. Et donc, question, comment pourrions-nous trouver du plaisir à cette douleur? Est-ce que c'est pas plutôt le signe que nous sommes profondément troublés par le temps qui passe et par la modernité que nous vivons? Vous avez rappelé des chiffres inquiétants de ce point de vue-là. Alors, le philosophe Spinoza dit que regretter, c'est être malheureux deux fois. La première douleur, c'est de savoir que ce qu'on aimait ou ce qu'on connaissait n'existe plus. La deuxième douleur, c'est qu'on le regrette, justement. Alors, dès lors, le goût pour le vintage, est-ce que c'est pas une façon d'entretenir la nostalgie en faisant des tentatives désespérées pour ressusciter un passé qui de toute façon ne reviendra plus? Est-ce que c'est pas prendre le risque de tomber dans un piège plus violent encore?
Mais c'est peut-être plutôt une invitation à changer notre rapport au temps?
Ouais, c'est peut-être bien ça la clé. En fait, le problème n'est pas tellement que le temps passe, c'est que nous oublions qu'il dure aussi. Alors pour pas l'oublier, on peut se souvenir justement du philosophe Bergson et la distinction qu'il propose entre le temps et la durée. Pour Bergson, le temps qui passe n'est qu'une construction artificielle. C'est un temps objectif et mesurable dont on a distingué trois dimensions, donc le passé, le présent et le futur, pour essayer de mettre de l'ordre. Mais c'est un temps abstrait et finalement assez vide. Alors que le temps qui dure, ou la durée tout simplement, c'est le temps que nous ressentons intérieurement. Une heure, c'est toujours 60 minutes. Mais vous conviendrez assez aisément, Ali, qu'une heure à attendre le bus, ça dure pourtant plus longtemps qu'une heure à écouter grand bien vous fasse. Et puis, dans cette durée-là, la distinction entre passé, présent et futur n'est pas aussi nette. Pour nous, le temps ne s'écoule pas comme un ensemble de ruptures successives, mais plutôt au contraire comme une continuité. Alors, ce petit détour conceptuel entre temps et durée me paraît nécessaire pour repenser notre rapport nostalgique aux choses du passé. On cherche pas vraiment à ressusciter ce qui n'est plus, mais plutôt, comme l'a dit Adeline, à continuer ce qui est commencé ou à faire durer ce qui existe. La veste d'occasion que je me suis achetée ne témoigne pas de mon goût pour le passé, mais peut-être bien plutôt de mon envie de ressentir et d'exprimer concrètement et matériellement la continuité du temps et la durée des choses. Alors en ce sens, la nostalgie n'est plus une douleur, mais le plaisir de faire durer le monde et durer les êtres à travers des objets que l'on garde et que l'on remet dans la circulation de nos vies quotidiennes.
La petite philosophie de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice, c'est à voir ou à revoir en vidéo. Allez, dites-nous si vous comprenez ou non ce goût pour le vintage. 01 45 24 7000.
Ice water turn Atlantic, night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took an island, fled the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Love bitches undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free, and we out in these streets. Can you do it, can you pop it for me?
Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit.
Blow the brains out the coupe. Pulley one on top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Fuck her on the yacht, I've been a pool. She an addict for the lifestyle in the paddock. Daddy, how you ever felt Chanel fabric? I be dripping to death, I need a casket. And we got more strikes than
the ref, he foul tech him. In the middle of the field, like David Beckham. All my niggas locked up for real, I'm tryna help him. When I got a meal, got me the chills, don't know what happened. Pop pill, do what you feel, I'm on that zombie. I'm more like a Gaddafi, I'm not no Gandhi. I'm more like I'm David Goliath running. Niggas be cloning, I find it funny. Clone. We from the north, straight out the dungeon. We from the north, I go in the mouth, she costing me nothing. 300 the watches out of your budget. Mean muggin' got me clutching. Yeah, and it's stick right out of Russia.
Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took an olive, left the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Bridges undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free. And we out in these streets. Can you do it? Can you pop it for me?
Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit.
Kodak Black interprété Zizi.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h42, c'est le titre qui vous fait rire, Thibaut de Saint-Maurice.
Zizi, non, mais vous le dites avec une grande assurance. C'est très bien.
Et ce matin, on s'intéresse donc au vintage. Comment expliquer ce goût pour les objets, vêtements, accessoires, mobiliers des années 50 à 80? Appelez-nous au 01 45 24 7000.
C'est l'original avec la poche, hein, donc celui qu'on met. Je vous montre quand même.
Hein. La poche banane?
Ah, bien sûr. Ah non, c'est l'original. Ça, c'est celui que vous aviez en colo. Là.
Kawe a bien failli disparaître.
Votre petit produit.
Quand les nouveaux propriétaires italiens ont relancé la licence en France, les gens se sont précipités dessus.
Et bon, la seule chose qui a changé, c'est quand même, je ne sais pas si je dois le dire, mais c'est le prix. Donc c'est aujourd'hui, un vêtement comme ça, ça coûte, je crois, c'est 70 euros. Non, 100 euros.
Ah. Ça paraît fou.
Ouais, ça paraît fou, mais ça, c'est... Il y a beaucoup de marketing derrière, faut être honnête. Mais il y a aussi, c'est un produit très authentique. Et l'authenticité, ça se paye.
Extrait de l'émission Tout compte fait. Alors, à propos d'authenticité qui se paye, Émilie nous dit, je crois que vous êtes aveugle. Si quelques personnes portent et achètent de l'occasion du vintage, du déjà vécu, la plupart des gens achètent du vintage neuf. Dans les magasins bien conscients des bénéfices à faire, c'est purement commercial. Qu'est-ce qu'on répond à Émilie Catel-Poliquin?
On répond que le vintage est parfois dévoyé, mais qu'effectivement il est tout à fait possible d'acheter du véritable vintage, comme l'ont dit vos auditrices tout à l'heure, dans les foires à tout, les brocantes, les Emmaüs, etc. Après, on ne peut pas nier qu'en effet, ce soit devenu un filon marketing, et il faut évidemment regarder les étiquettes, se méfier en effet de la récupération d'une tendance qui fonctionne extrêmement fortement. Et
Arthur va sur la page Facebook, Arthur va dans le même sens, il nous dit il devient compliqué de se fournir à des prix raisonnables, de trouver des objets vintage, des vêtements vintage à des prix raisonnables. Oui. Nathalie Dolivo.
Non, mais il y a un marketing du vieux, c'est sûr, du vintage. Donc, il faut vraiment trier le bon grain de livret. Il faut aller en friperie, il faut aller en marché et peut-être acheter l'original plutôt que la copie de grande enseigne. C'est...
Et privilégier aussi parfois les foires à tout, les brocantes vraiment d'amateurs dans les grandes villes, mais aussi...
Dans les villages.
Exactement. Dans les villages. En région, il y a énormément de brocantes qui permettent véritablement de faire encore
très
bonnes
accessibles.
Affaires.
Renan Châtelier.
Moi, je suis d'accord avec les vigreniers, les brocantes, tous ces événements. En plus, vachement sympa, hein, parce que c'est des gens comme ça qui mettent tout dehors devant eux et il y a des conversations qui s'engagent, etc.
Et qui parfois racontent, pardon de couper, l'histoire véritablement
de leur objet.
Alors qu'il y a plein de boutiques qui existent dans des quartiers pseudo-branchés qui se créent et qui vous vendent du faux vintage, ou alors plus exactement du vintage trié. Ils vont mettre un prix particulier par-dessus et c'est juste en dessous du prix du neuf.
Tiens, pourquoi c'est si excitant de chiner? C'est le plaisir de la rencontre à laquelle on ne s'attendait pas, c'est ça Catel-Poliquin?
C'est le plaisir du hasard, c'est ne pas savoir ce que l'on va trouver, peut-être ne pas savoir ce que l'on cherche d'ailleurs, être attiré par un accident aussi, une imperfection parfois, une patine, quelque chose qui distingue justement du neuf, une véritable patine, pas une patine artificielle. En tout cas, c'est le plaisir de l'accident, finalement de l'émerveillement que l'on n'attendait pas.
Comme dans la rencontre amoureuse.
Exactement, parfois.
C'est le plaisir de la pièce manquante, c'est presque une pathologie. Ce truc-là qu'on veut absolument obtenir. Et que...
Oui, on a interviewé des jeunes filles qui nous racontaient qu'elles se font des frip trips, c'est-à-dire elles partent en bande, un peu au hasard comme ça, et voilà, un peu au petit bonheur, et c'est hyper excitant, comme un saut en parachute.
Et puis c'est très valorisant de raconter après la trouvaille, c'est-à-dire, oh là là, j'ai trouvé ça, c'est une merveille, et pourtant ça ne m'a pas coûté cher. Donc il y a aussi vraiment une jouissance à trouver un objet que l'on trouve extrêmement beau, pas cher.
Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Grand reporter de l'émission. Alors vous avez rencontré une créatrice qui fait de la récup.
Ouais, elle s'appelle Anaïs Dauté-Warmel. Il y a 3 ans, elle a créé sa marque Les Récupérables, des robes, des manteaux, des jupes, des combinaisons qui ont la particularité d'être fabriquées avec de vieux tissus, c'est-à-dire des rideaux, des nappes ou encore des dessus de lit. Rencontre avec cette jeune créatrice débordante d'énergie qui milite pour une mode vintage éco-responsable. Anaïs, en quoi vos vêtements sont-ils vintage?
Ils sont vintage sur plusieurs points. Les coupes, elles sont rétro-modernes, c'est-à-dire qu'on va avoir une grande manche entre marteau et kimono, donc avec du volume dans le haut, on vient ceinturer la taille. Et elle vient mettre aussi en valeur des silhouettes aussi bien avec des formes. Donc plus si on regarde les Mad Men où les femmes assumaient beaucoup plus aussi des jolies formes. Et puis après, c'est vrai que c'est la matière. Quand c'est des rideaux, quand on porte une combi short en rideau, on porte réellement un rideau. Donc il y a une histoire derrière. Et puis ce qui est assez fabuleux, là j'ai reposté il n'y a pas longtemps un kimono, un ancien modèle que j'avais fait dans un dessus de lit, et je reçois des messages avec des photos, on me dit mais il y avait la même chez mes grands-parents, oh là, ça me fait trop penser au dessus de lit de chez mon oncle Martin. Enfin, parce qu'en fait finalement le vintage c'est quoi? C'est une histoire d'amour avec le passé, avec notre famille, avec la famille des amis qu'on s'est constitué aussi, et c'est ça qui est chouette, et puis on les reconnaît tout de suite, ces matières.
D'où vous vient cette passion pour le vintage, le rétro?
Ma grand-mère, elle m'a plongée dans l'univers de la couture dès toute petite. Puis je disais, mais mamie, quand même, on pourrait pas croiser les épingles et un peu plus de décolleté, et la jupe un peu plus courte. Elle me disait, non de non. Et un jour, donc Thérèse me dit, bon, bah tu vas pas choisir ton tissu aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser dans le pantalon de mariage de mon grand-père une robe. Là, je dis, mamie, t'es chaude quand même. Je me dis, c'est quoi cette magie? Et elle me plonge dans ses astuces. Donc, il y a eu ça. Et puis, très rapidement, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme matière qui substituerait bien au tissu, au rouleau? Et en fait, je me suis dit, j'adore les fleurs, j'adore le vintage. Et c'est comme ça que ma love story avec les rideaux a commencé. Et bien évidemment, la blague quand j'ai commencé, c'est on me disait, mais attends, tu t'habilles avec tes rideaux. Ouais, appelez-moi la nouvelle Scarlett O'Hara, j'assume total ce sobriquet. Parce que c'est dans les vieux rideaux qu'on fait les plus belles combi shorts, peut-être.
On peut se dire que le risque avec justement des tissus anciens, c'est qu'on peut facilement basculer dans le kitsch, le mauvais goût. Comment on fait pour éviter ça quand on fait du vintage ?
Complètement. Alors beaucoup moins parce qu'il y a eu un gros boom et pas mal de travail de com et d'esthétisme qui a été fait là sur les dernières années. Donc ça a beaucoup changé. Et donc exit le bonnet péruvien, la toge en lin qui gratte. Et puis aussi c'est le retour des imprimés depuis 5-6 ans qui est en force. Et puis voilà, et ce qui est génial, c'est que ces matières-là, elles ont fait l'épreuve du temps. Donc si elles ont passé 10, 20 ans, enfin plusieurs décennies à tenir la route, du coup ça veut dire qu'elles vont tenir encore vachement longtemps. Donc ce que j'appelle les économie du bon sens et qu'il serait temps de ramener un peu sur le devant de la scène.
Reportage signé Antoine Lee. Elle est géniale, votre Anaïs, Antoine.
Ah bah là, une énergie qui est communicative.
Avec Catel Pouliquen.
Moi j'adore sa love story avec les rideaux. Elle est extrêmement drôle. Après Anaïs, c'est une très jeune femme, elle est tout à fait représentative de cette génération créative, inventive, qui fourmille d'idées et qui incarne véritablement cette modernité qui regarde en arrière et en même temps projette un futur assez enchanteur. Donc je la trouve tout à fait symbolique de cette génération qu'on a rencontrée.
Oui, il y a de plus en plus de créateurs qui s'interrogent aujourd'hui sur leur mode de production et donc effectivement la mode doit se questionner puisqu'elle est pointée du doigt régulièrement. Donc elle est assez emblématique de ça. Il y a cette pratique qui s'appelle l'upcycling qui conquiert de plus en plus de jeunes créateurs.
L'upcycling,
c'est justement ce que fait Anaïs, faire du neuf avec du vieux, récupérer un stock de rideaux, de foulards, faire une robe. Et donc... voilà, c'est la manière pour la mode d'avancer sur ces questions.
Bonjour Franck Tapiro. Bonjour, vous êtes publicitaire, vous êtes le fondateur de l'agence Datacalab. Ben, moi, j'aimerais avoir votre regard de publicitaire sur le succès du vintage, avec notamment des tas de marques qui font du rétro-marketing. On l'a entendu tout à l'heure avec Kawe, je pense aussi à la purée mousseline, etc. Votre regard, Franck Tapiro?
Alors, j'ai bien aimé la dernière intervention qui parlait d'histoire d'amour, hein. Histoire d'amour avec des produits, avec des marques, mais aussi c'est l'histoire d'amour, pour moi, avec un passé forcément plus créatif. Pour moi, je remarque ça depuis une trentaine d'années, et vous savez que le vintage, ça existe dans la mode, mais ça existe dans plein d'autres domaines. Ça existe dans le cinéma, avec les remakes. Ça existe dans les pubs aussi, qui reprennent des vieilles idées pour les remettre au goût du jour. Pour moi, le vintage correspond à chaque fois avec un manque de créativité ambiante absolue. Et encore une fois, la nature a horreur du vide. Et quand il s'agit de créativité, c'est un vide abyssal. Et on remarque à chaque fois qu'il y a des grandes tendances de retour du vintage, quand l'époque, malheureusement, n'est plus à la créativité. Je peux vous dire, moi, en tant que créatif publicitaire, même si je fais d'autres choses à côté dans les neurosciences, je vois une baisse de créativité, une baisse de manque de prise de risque dans tous les domaines. Dans la voiture, regardez, au niveau des designs de voitures, quand on regarde les photos des années 50, moi, je peux comprendre qu'il y ait des nostalgiques. Mais c'est pas nostalgique parce qu'avant, c'était mieux. C'est qu'à une époque, peut-être qu'on prenait plus de risques, on osait plus de choses. Et qu'aujourd'hui, ça s'explique comment ? Ben, la banalisation, c'est la mondialisation et la standardisation qui ont amené finalement une forme de pensée créative qui n'est pas au-dessus des attentes. Et c'est pour ça que ça provoque moins de surprises, moins d'émotions. Et voilà pourquoi je comprends que des jeunes, très jeunes même, retournent à des époques qu'ils n'ont jamais connues. Mais cette époque les connecte à une forme de créativité qui leur donne une émotion forte. Donc encore une fois, moi j'adore parce que c'est vrai qu'on retrouve des émotions qu'on a vécues il y a 20, 30 ans, voire plus. Mais c'est aussi un signal pour moi, c'est de dire attention, si le vintage revient, c'est qu'on n'est pas assez créatif.
Merci beaucoup Franck Tapiro pour votre regard de publicitaire sur le succès du vintage. Allez, continuez à réagir sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Christine and the Queens interprétée Five Dolls.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebi.
Alors, Catel Pouliquen, Nathalie Deliveau, Renan Châtelier, le goût du vintage trahit également peut-être un désir de distinction, hein, pour parler comme Pierre Bourdieu. Catel Pouliquen.
Le vintage permet de sortir de la masse au sens il permet de ne pas s'habiller comme tout le monde. Et en ce sens, évidemment, c'est un choix que opèrent de nombreux consommateurs parce qu'ils sont parfois fatigués, épuisés par l'uniformisation du monde, par le fait que la fast fashion délivre des tonnes de vêtements tous identiques dans toutes les plus grandes villes du monde. Donc finalement, faire un pas de côté en choisissant sa propre pièce vintage, c'est en effet être assuré de ne pas croiser des silhouettes toutes identiques, de ne pas ressembler à tout le monde.
Nathalie Doliveau, j'achète du vieux car je sais ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. L'argent ne suffit pas. Mon goût et ma culture font la différence.
Oui, c'est une manière de mettre en avant son œil, sa culture, effectivement, d'exercer son libre arbitre de consommateur, de reprendre la main sur une conso qui paraît parfois un peu nous asservir. Donc je pense que voilà, la fast fashion, ça rend pas forcément heureux un certain nombre de gens. C'est un peu comme manger un paquet de chips et puis après on est un peu dégoûté quand on a acheté ces 3 t-shirts qu'on remettra jamais. La Chine et les vêtements vintage, ça procure un plaisir différent.
Romain Châtelier.
C'est vrai qu'il y a un côté très barbapapa, un peu vaguement écœurant dans la consommation de produits industrialisés, tout le temps l'un remplaçant l'autre, etc. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une espèce de dialectique de la mode qui existe, avec à la fois ce besoin de s'identifier et puis de celui de se fondre dans la masse. Et donc peut-être que là, on penche plus du côté de je veux personnaliser absolument mon objet.
Vous avez une minute pour répondre à cette question. Pourquoi le vintage a-t-il de l'avenir, Katel Poulikan?
Parce que c'est ce qui permet finalement de lutter contre à la fois l'obsolescence programmée, comme on l'a dit,
et finalement
le tout jetable, exactement. Et puis c'est vrai que la mode s'est énormément démocratisée, donc finalement on devient tous les curateurs de notre propre look, et ça c'est quand même assez agréable.
Nathalie Doliveau.
Ça a de l'avenir parce que ça répond à plein de questions de l'époque, donc une quête esthétique, une conscience écologique, et que donc les deux mis ensemble, pourquoi s'en passer?
Ça a de l'avenir parce que c'est porteur de culture, et tout ce qui est porteur de culture a de l'avenir.
Allez, on peut lire avec beaucoup de profit Rétro Cool de Katel Poulikan et Nathalie Doliveau. C'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup Ronan Châtelier d'être passé ce matin dans Grand Face. Demain, nous recevons le philosophe Olivier Pourriol qui nous aidera à nous rendre la vie plus facile en 2019. Question-réaction au 01 45 24 7000. À suivre, Nagui et sa bande originale.